France Info.
Attend donc ces pluies, malheureusement, qui tombent sur ces sols, qui n'arrivent plus à absorber ces nouvelles averses.
Merci Christine Peña. Nouveau point météo dans 10 minutes, juste après le journal. Bon réveil sur France Info, il est 5h. À la une ce matin, l'enquête autour de la mort du militant identitaire Quentin Derenque se poursuit. 9 personnes sont en garde à vue. Une affaire avec un retentissement politique important et un parti pointé du doigt, la France insoumise. 4 départements sont toujours en vigilance rouge pour crue ce matin. Les pluies à venir font craindre de nouvelles montées des eaux. Enfin, le Paris Saint-Germain bien lancé pour rejoindre les 8e de finale de la Ligue des champions de football. Vainqueur hier de Monaco. Des interpellations réparties dans toute la France. 9 personnes sont en garde à vue dans le cadre de l'enquête autour de la mort de Quentin Derenque à Lyon la semaine dernière. Pierre de Cossette, parmi ces 9 personnes, 6 sont soupçonnées d'avoir frappé la victime, dont l'assistant parlementaire du député insoumis du Vaucluse, Raphaël Arnaud.
Oui, Jacques-Élie Favreau a été interpellé en Isère, à une 20aine de kilomètres au sud de Lyon. Assistant parlementaire donc, mais aussi considéré comme l'un des fondateurs de la Jeune Garde, ce groupe antifasciste dissous l'an dernier, et dont plusieurs autres suspects arrêtés hier sont présentés comme des membres actifs. Les policiers les avaient identifiés, ils les suivaient de près, et hier, donc en quelques heures, 9 interpellations de la Drôme à la Picardie en passant par la Haute-Loire, 3 personnes dont 2 femmes pour des rôles annexes, et donc 6 hommes dont les enquêteurs ont la certitude qu'ils ont donné des coups jeudi dernier. Pour la justice, il s'agit maintenant de définir avec le maximum de précision les rôles de chacun dans la mort de Quentin Derenque. Celui par exemple de Jacques-Élie Favreau était-il un meneur ? Les gardes à vue doivent permettre aux suspects de s'expliquer, même si un policier nous disait hier soir s'attendre à ce qu'il garde le silence. Une culture de l'ultra-gauche, selon ce connaisseur du dossier.
Les précisions de Pierre de Cossette pour France Info. Hier, l'affaire s'est invitée à l'Assemblée nationale avec une minute de silence en hommage à Quentin Derenque, puis une série de questions au gouvernement agité avec un parti pointé du doigt, la France insoumise, pour ses liens avec la Jeune Garde, Paul Barcelone.
Sa responsabilité morale et politique est immense. Jordan Bardella et l'ERN accusent Jean-Luc Mélenchon d'avoir ouvert les portes de l'Assemblée nationale et des meurtriers présumés.
Pas de surenchère.
Devant ses militants, le tribun insoumis tente de se défendre.
Aujourd'hui même, alors que nous sommes sous les coups des accusations les plus grotesques, les plus ridicules, les plus injustes, les plus dangereuses pour nos personnes, nous ne cédons pas à la facilité.
Car Jean-Luc Mélenchon a bien en tête ses propos du Premier ministre, qui l'accuse de brutaliser la vie politique ici dans l'hémicycle.
Il est temps que vous fassiez le ménage.
Et cible la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot.
Le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées, et surtout le ménage dans vos rangs.
Là encore, Jean-Luc Mélenchon s'agace.
Nous n'acceptons pas les leçons que nous donne monsieur le Premier ministre qui visiblement a pété un câble aux questions d'actualité.
La Jeune Garde tue et LFI devrait le condamner, insiste le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Même la gauche hausse le ton, le Parti Socialiste se démarque encore de la France Insoumise, estimant qu'elle ne peut conserver la moindre ambiguïté avec tout mouvement violent.
Paul Barcelone, l'actualité en France, ce sont aussi les inondations avec ce matin 4 départements en vigilance maximale pour crue. Le Maine-et-Loire, la Gironde et le Lot et Garonne ont été rejoints hier par la Charente-Maritime où l'eau atteint des niveaux historiques selon le préfet. Et juste à côté à la frontière en Charente, le pic de la crue est passé. Mais les fortes pluies annoncées inquiètent Pierre Marsat notamment à Gonpontrouve au nord d'Angoulême.
Depuis ce week-end, on a les pieds dans l'eau route de Vars à Gonpontouvre, environ 30 à 35 cm par endroit. Un peu moins dans la journée d'hier, mais une remontée était attendue dans la nuit. Jean-Luc Tardeau vient tous les jours rendre visite à sa mère, qui vit seule. Il doit prendre son mal en patience.
Je vais chez ma maman, je lui apporte son pain, son journal. Tant qu'il y a l'électricité, elle peut rester chez elle. La maison est surélevée, donc l'eau n'est pas rentrée dans la maison. Ça fait long, et puis on dit qu'on a l'habitude, mais à chaque fois, c'est de plus en plus souvent, je pense. Il y a quelques années, c'était moins souvent, mais là, plus ça va, plus c'est récurrent.
Aurélien Palu a construit un bâtard d'eau en contreplaqué pour freiner la montée de l'eau dans son logement. Il a tout monté à l'étage.
Au plus haut, on a eu 30 cm dans la maison.
Et le bâtard d'eau, ça n'a pas suffi?
Ça suffisait.
Enfin, ça suffisait, non, il y avait quand même de l'eau à la maison, mais j'avais quand même 15 cm de moins que dehors. Et après, quand on a eu coupure d'électricité, forcément, c'est monté. Et ça ralentit, hein, ça coupe pas l'eau.
Nathalie a beaucoup déménagé ces derniers jours, accueillie d'abord au centre d'hébergement d'urgence de la mairie de Gompontouvre. Elle se prépare à loger dans un appart-hôtel. Sa petite maison est invivable ces jours-ci.
C'est mouillé. Nous, il y a encore un peu d'eau derrière. Là, devant, ça va. Mais bon, le parquet tient pas. Enfin, voilà. On a un étage, mais nous, on a stocké les affaires, ce qu'on a pu stocker à l'étage. Et tout après, dedans, c'est en bas. Tout est en bas, la cuisine, dans la chambre de la petite, c'est monté jusqu'à 35 cm.
Tous les accès des voitures à la route de Vars restent fermés par des barrières.
Un reportage ici à La Rochelle de Pierre Marsat pour France Info. Ce matin, il n'y a plus de vigilance orange pour avalanche. Mais hier, 3 personnes sont mortes dans les Alpes. 2 skieurs polonais et britanniques qui évoluent en hors-piste dans les Hautes-Alpes et un promeneur en Savoie. À Nîmes, un enfant de 8 ans est décédé fauché par un automobiliste de 17 ans hier qui a ensuite pris la fuite. Le jeune garçon était en train de traverser pour se rendre à son école près d'un arrêt de bus quand il a été percuté. Le parquet annonce que 6 personnes, dont le conducteur, sont en ce moment en garde à vue. Il ne reste plus qu'un projet de reprise de la verrerie Arc dans le Pas-de-Calais. Après le renoncement hier de Patrick Puy, l'ancien président de l'entreprise de 2013 à 2015, il retire son offre à la dernière minute puisque le délai pour la déposer au tribunal de commerce de Lille était jusqu'à hier soir, Pascal Thiébaud.
Ils étaient 2 jusqu'à présent sur les rangs pour reprendre Arc, Patrick Puy donc, et Timothée Durand, membre de la famille des propriétaires historiques. Hier, Patrick Puy a donc jeté l'éponge, indiquant, je cite, « avoir choisi en responsabilité de ne pas retarder le processus » alors qu'il avait présenté un plan de relance sans licenciement. Il précise qu'il y aurait fallu au moins un mois supplémentaire pour faire les choses sérieusement. Il renonce, dit-il, au regard de la situation financière de l'entreprise qui nécessite une reprise en main rapide et compte tenu de l'existence d'une autre offre de reprise travaillée depuis le mois de novembre. Cette autre offre, c'est donc celle de Timothée Durand, celle qui prévoit, elle, des suppressions de postes, 800 au total sur le site d'Arc, avec 300 licenciements et des départs volontaires. L'effectif passerait ainsi à 2700 salariés. Le tribunal de commerce de Lille Métropole devrait se prononcer autour du 10 mars.
Les précisions de Pascal Thiébaud, ici Nord pour France Info. Option prise pour le Paris Saint-Germain en vue des huitièmes de finale de la Ligue des champions de football. Victoire hier 3-2 en barrage aller face à Monaco, Nouredine Zidane, avec pourtant un début de match plutôt compliqué pour les Parisiens.
2 buts encaissés en moins de 20 minutes, dont le premier après seulement 55 secondes. Et un pénalty manqué, le PSG pouvait difficilement connaître pire première demi-heure. Pourtant, les coéquipiers de Marquinhos n'ont pas baissé les bras face à ces éléments contraires.
On a cette mentale qui a été travaillée par notre entraîneur. Et si on a un joueur de moins, un joueur de plus, il faut toujours être agressif, avoir la possession. C'est ça notre philosophie. Nous, on n'est pas parfait. Des fois, on est mieux, des fois, on est moins bon.
Comme Désiré Doué en manque d'efficacité ces dernières semaines. Mais hier, le jeune attaquant a sonné le réveil parisien. Après avoir remplacé Ousmane Dembélé, sorti sur blessure, il a inscrit 2 buts et a été à l'origine du 3e, à la grande satisfaction de son entraîneur, Luis Enrique.
Je suis très content pour Des, parce que la dernière semaine, tout le monde a critiqué, a tué les joueurs. Dans ce moment, il a été sensationnel, il a aidé l'équipe dans les meilleurs moments, et c'est très important pour nous.
Mais un seul but d'écart, c'est presque miraculeux pour Monaco, en infériorité numérique pendant presque toute la seconde période. Le PSG, qui espère ne pas regretter ses nombreuses occasions non converti à l'issue du match retour la semaine prochaine.
Et autre match aller hier, celui entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid, remporté par les madrilènes 1-0, une rencontre interrompue pendant une dizaine de minutes. Le joueur brésilien du Real, Vinicius Junior, a dénoncé avoir été victime de propos racistes. La France est 7e ce matin au tableau des médailles des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina avec une nouvelle médaille en or décrochée hier sur le relais masculin en biathlon. Record de médaille pour la France pour cette édition. Et aujourd'hui, place aux femmes sur le relais avec encore une chance de podium. C'est à partir de 14h45. 5h09 sur France Info. Christine Peña, la météo. Pas d'amélioration avant la fin de semaine.
Mais non, encore 2 journées très agitées d'ailleurs avec le passage de Pedro, cette tempête qui devrait donner de nouvelles averses soutenues sur l'ouest du pays, en particulier sur le Finistère, le Morbihan. Du vent violent sur la façade atlantique notamment, ce qui aura pour conséquence d'accentuer les crues et puis de la neige en montagne qui aura pour conséquence d'accentuer le risque d'avalanche là pour le coup. Et à partir de vendredi, le mauvais temps devrait se décaler vers l'Italie et enfin nous laisser tranquille quelques jours, permettant la décrue de s'amorcer dès le week-end prochain.
Merci Christine Peña.
France Info sur les réseaux sociaux.
Suivez-nous sur WhatsApp,
TikTok,
Instagram,
X,
Facebook,
Snapchat,
LinkedIn,
YouTube
ou Twitch.
France Info, pas juste l'info, l'info juste.
D'ici 5h30, nous serons dans le Lot-et-Garonne, à Marmande, aux côtés d'une famille évacuée depuis jeudi dernier à cause des crues. Le temps commence à se faire long. 4 départements sont en vigilance rouge pour crues en tout dans l'ouest du pays. Mais avant ça, 9 suspects en garde à vue suite à la mort du militant identitaire Quentin de Ranque.
France Info, 5h-6h, Jeanne Mézia.
4 jours après l'annonce de la mort du militant identitaire Quentin de Ranque, passé à tabac jeudi soir dernier en marge d'une conférence de l'eurodéputé LFI Rima Hassan à Lyon. L'enquête se poursuit et 9 personnes sont en ce moment en garde à vue, dont 6 soupçonnées d'avoir participé aux violences commises sur le jeune homme de 23 ans. Bonjour Elia Bergel.
Bonjour à tous.
Parmi les suspects, un nom ressort, celui de Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire du député insoumis du Vaucluse.
Oui, un très proche collaborateur de Raphaël Arnaud. On peut voir Jacques-Élie Favreau sur des photos postées par le député LFI sur le réseau social X le jour de son arrivée à l'Assemblée nationale dans la foulée de son élection à l'été 2024. Les deux hommes étaient membres de la Jeune Garde, groupe cofondé par Raphaël Arnaud, dissous l'été dernier. Certains anciens militants du collectif antifasciste lyonnais sont suspectés d'être impliqués dans la mort de Quentin de Ranque, dont Jacques-Élie Favreau, interpellé hier. Je rappelle que par la voix de son avocat, le collaborateur insoumis nie formellement la moindre responsabilité dans le drame.
Un collaborateur parlementaire, Élie, qui jusqu'à présent n'a presque jamais fait parler de lui.
Oui, parcours plutôt classique, militant à gauche de longue date, étudiant à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Sur une photo récente, on le voit en manifestation, tenir une banderole de Ose CGT, un syndicat étudiant stéphanois. Son profil X est confidentiel, un pseudo, pas de photo de lui, des messages de soutien à la grève des raffineurs ou un appel au préfet du Rhône à fermer un local d'extrême droite à Lyon. Sa nomination comme collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud à l'été 2024 a fait bondir une partie de la droite et de l'extrême droite. Le syndicat étudiant uni l'accusait alors d'avoir agressé des militants à Saint-Étienne.
Et désormais, la France insoumise se sépare de Jacques-Élie Favreau.
Oui, la pression devenait intenable. La polémique menace de suffoquer totalement LFI, pris sous le feu roulant des critiques. En interne, de nombreux cadres du parti plaidaient d'ailleurs pour une mise à distance de Jacques-Élie Favreau. Le coup près tombe. Hier soir, dans un message laconique, le député insoumis Raphaël Arnaud écrit qu'il a engagé auprès des services de l'Assemblée les procédures pour mettre fin à son contrat. À l'enquête désormais de déterminer les responsabilités, conclut l'élu insoumis.
Elia Bergel, service politique de France Info. Cela fait bientôt une semaine que la tempête Nils s'est passée. Eclos a commencé à monter dans plusieurs départements. 4 sont ce matin en vigilance rouge pour crues, la Charente-Maritime, le Maine-et-Loire, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Ou à Marmande, certaines familles sont hébergées à l'hôtel du Lion d'Or. Caroline Félix, vous vous êtes rendue auprès de ces sinistrés qui commencent à trouver le temps long.
La salle de séminaire de l'hôtel est devenue un espace pour enfants. La gérante a sorti les jeux de société sur les tables. Une dizaine d'enfants en profitent, parmi eux ceux de Gabriel, qui a été logé ici en famille par son assurance.
On est à l'abri au moins.
Ils passent le principal de leur journée entre leur chambre et cette pièce.
C'est des enfants de la campagne, donc ils ne sont pas habitués à être enfermés ni rien, donc c'est vrai que pour eux c'est compliqué.
Jeudi, la famille a dû quitter sa maison à Taillebourg, évacuée sur un bateau.
On est parti, l'eau rentrée dans la maison, mais on ne sait pas à quel niveau elle est montée.
Ils se sont retrouvés à l'hôtel sans vêtements, sans jouets. Heureusement, la solidarité a fonctionné, explique Soline, 7 ans.
Maman, elle a reçu des sacs pour nous parce qu'on n'avait pas beaucoup d'affaires et il y avait des doudous dedans.
C'est ça, même les chaussettes reine des neiges.
La dizaine de sacs de dons est stockée dans un coin de la grande pièce, pas suffisant pour réconforter Soline. Elle aimerait bien rentrer chez elle.
Elle te manque un peu ta maison ?
Oui, j'ai peur de perdre mes jouets.
Tu dois mettre ça là-dessus et tu dois fouiller les crottes de nez et en accrocher.
Elle essaye de comprendre les règles d'un jeu de société avec Lina, 8 ans, sa voisine de la chambre 205.
Ils sont super confortables.
Tu sais pourquoi tu es là et que tu n'es pas chez toi ?
Parce qu'on était inondés.
Le parquet, il est tout mouillé.
Même si Lina s'est trouvé une copine, elle et sa famille vont quitter cet hôtel pour un appartement d'appoint, au grand soulagement de ses parents. Leur assurance leur a trouvé cette solution un peu plus pérenne après des jours d'incertitude.
C'est très fatigant. Depuis une semaine, on est stressé, on est angoissé.
Tout en essayant de rassurer leurs enfants si besoin.
Quand c'est qu'on rentre à la maison, ça c'est le côté le plus difficile en fait. C'est qu'ils comprennent pas qu'on peut pas retourner à la maison tout de suite. Et on leur a expliqué, le sol de votre chambre, il est complètement foutu. Enfin, alors par moments, ça va. D'autres moments, c'est moins bien, quoi. Nous, c'est pareil, on fait comme la Garonne, en fait, j'ai l'impression. On a des hauts et des bas, en fait, au niveau du moral, de tout, quoi.
Valérie s'inquiète surtout pour son fils, autiste de 15 ans.
C'est très compliqué pour lui, parce que, bah, il a plus ses repères. C'est sa chambre, c'est ses objets qu'il peut avoir au quotidien avec lui, même sa tasse pour déjeuner, quoi. On l'a ramené ici, la tasse, elle est là. Il était assez calme pendant 2-3 jours, mais là, ça commence à être un peu compliqué. Ouais. On va essayer de faire au maximum pour lui, quoi, pour son confort et que ça se passe le mieux possible. Quoi.
Elle aimerait bien retrouver sa maison, ses chiens qui sont chez des amis, mais ce n'est pas pour tout de suite, d'après son mari Serge.
Il faut compter à peu près 3 semaines à peu près de séchage. Après, en termes d'œuvre, il faut reprendre au niveau des murs, carrelage, tout ça et tout. À vue d'œil comme ça, sur un chantier, il faut compter à peu près 2 à 3 mois.
Un expert doit venir début mars chez eux pour évaluer l'état de la maison.
Un reportage de Caroline Félix pour France Info. La Charente-Maritime, le dernier département, entré en vigilance rouge pour Creuillère. De nouvelles pluies sont annoncées pour la journée. Le lieutenant-colonel Samuel Sessac, commandant départemental de secours sur le secteur de Saintes, fait le point sur les opérations.
Nous avons réalisé 100 d'interventions sur le secteur et notamment 50 d'évacuations sur Saintes. Et depuis le début de l'événement ce week-end, on en est à plus de 200 interventions, donc nous sommes particulièrement mobilisés et vigilants. Nos missions se consacrent principalement à l'assistance à la population. On a des rues dans lesquelles il y a 1 mètre d'eau, donc à l'aide de barques, d'embarcations, nous allons au contact de la population, nous les aidons à sortir de leur logement, alors soit pour une évacuation dans la famille, ou soit pour aller travailler. Ça, c'est le premier volet. Ensuite, il y a un volet protection des biens. On va rehausser les meubles, aider la population à protéger ses biens. Et enfin, il y a un volet qui est un peu à la marge, mais qui arrivera avec la période de décrue un peu plus tard, c'est la protection de l'environnement, puisqu'on peut avoir des phénomènes de fuite de cuves d'hydrocarbures, notamment, ou des citernes de gaz.
Comment réagit la population ?
La population, je dirais qu'elle réagit plutôt avec calme. Il y a une certaine forme de résilience. Les gens connaissent les phénomènes et quant au service de secours, eh bien nous sommes préparés, nous exerçons régulièrement sur ce type d'événement climatique.
Est-ce qu'il y a des communes peut-être plus difficiles d'accès que d'autres ?
Alors la préparation, elle passe par la connaissance du risque. Et c'est l'avantage que nous avons avec le maillage de 67 centres de secours. Nous sommes au plus près des territoires, des collectivités, nous connaissons le risque. Et nous connaissons nos interlocuteurs, donc ça facilite grandement la gestion de l'aléa. Une forte mobilisation de tous les acteurs, donc je voudrais parler des services de la ville de Saintes qui ont fait un gros travail, mais toutes les communes qui sont mobilisées et qui ont activé leur plan communal de sauvegarde, et puis tous les services partenaires, gendarmerie, SAMU, la Croix-Rouge, la police, qui sécurisent les habitations qui sont évacuées. Donc ça a permis un bilan plutôt positif et puis souligner également l'engagement de renforts extra-départementaux puisqu'on aura la mobilisation de nos collègues pompiers des Deux-Sèvres et du 87 ainsi que des moyens de la zone de défense, des embarcations qui viendront nous renforcer. On peut donner quelques conseils de prudence à la population, surtout limiter vos déplacements quand ils ne sont pas nécessaires et puis ne vous engagez pas sur les routes lorsqu'il y a de la signalisation et qu'elles sont fermées à la circulation.
Le lieutenant-colonel Samuel Sessac avec Julien Langlais sur France Info. À suivre, direction Israël, où des femmes et des hommes dénoncent les violences sexuelles qu'ils ont subies lorsqu'ils étaient otages à Gaza. Ce sera juste après l'essentiel de l'info.
France Info, reportage, partout avec vous.
Avoir réponse à tout face aux habitants. Françoise, 44 ans, elle est secrétaire de mairie à plein temps. C'est la première fois qu'elle occupe ce genre de poste, aucun regret.
Je m'amuse bien, je m'éclate bien. Il n'y a aucun jour qui se ressemble.
Sur le terrain, sur tous les terrains.
Au sous-sol d'un vieux théâtre de Kiev, une salle de répétition, une batterie, des amplis, l'antre d'Armata, meilleur groupe de métal d'Ukraine.
80% de nos chansons chantent la guerre, parce que la guerre ici, ça dure depuis 2014.
France Info, pas juste l'info, l'info juste. France Info, 5h-6h.
Bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
L'info en une minute à 5h19 avec vous. À la une, c'est 9 personnes en garde à vue après la mort de Quentin Derenck.
Le militant identitaire roué de coups est mort à Lyon le week-end dernier. Parmi les personnes arrêtées, Jacques-Élie Favreau, l'attaché parlementaire du député de la France Insoumise Raphaël Arnaud, et l'un des membres fondateurs du groupe antifasciste La Jeune Garde. Ce sont maintenant 4 départements qui sont en vigilance rouge au cru, le Maine-et-Loire, la Gironde, Lot-et-Garonne et la Charente-Maritime. 10 départements de l'Ouest sont en orange. Sur France Info, le préfet de Charente-Maritime estime que la crue va atteindre des records, comme en 1982 et 94, plusieurs centaines de maisons inondées à Sainte. Les négociations sur la guerre en Ukraine se sont tenues à Genève hier et ont été très tendues, mais elles vont tout de même se poursuivre aujourd'hui, selon la délégation russe. Des négociateurs ukrainiens, russes et américains tentent de trouver une issue après quasiment 4 ans de guerre. Et puis, complètement dominé en début de rencontre, c'est finalement le PSG qui s'est imposé face à Monaco hier. Victoire 3-2 des Parisiens pour ce match de barrage aller de la Ligue des champions de football.
France Info.
Cela fait plus de 4 mois que les derniers otages vivants détenus à Gaza ont retrouvé leur liberté et leur famille. Du temps est donc passé. La parole commence à se libérer et les témoignages d'agressions sexuelles se multiplient. Thibault Lefebvre, des hommes et des femmes se disent victimes de ces violences.
Son témoignage a ému les Israéliens et bien au-delà. Elle s'appelle Romy Gonen. Elle a 25 ans, elle a été enlevée sur le site du festival Nova. Elle a passé 471 jours en captivité. Libérée en janvier 2025, elle a dû attendre un an pour courageusement raconter à la télévision israélienne les agressions sexuelles que 4 hommes lui ont fait subir.
Il y a notamment eu ce moment dans la salle de bain. C'est là où tout s'est passé. Je pleurais. Lui passait le meilleur moment de sa vie, il était aux anges. Je me souviens d'un moment où j'ai regardé dehors à travers une toute petite fenêtre. Je me suis dit « Waouh, le ciel est bleu, les oiseaux chantent ». Et voilà la situation que je suis en train de vivre dans cette salle de bain. Une scène sale, dégoûtante, bestiale. Mais même dans cette situation, tu ne peux pas baisser les bras. Il s'est ensuite approché de moi, m'a posé un pistolet sur la tempe et il m'a dit « Si tu racontes ce qui vient de se passer, je te tue ».
Le tout premier récit d'otage victime d'abus sexuels date de mars 2024. La quadragénaire Amit Susana a alors raconté au New York Times les agressions qu'elle a subies. Puis les langues se sont déliées, des femmes et quelques hommes comme Guy Gilboa Dalla. Il a témoigné en novembre dernier sur la même chaîne de télévision que Romy Gonen.
Il m'a laissé prendre une douche. Quand j'ai terminé, il m'a demandé de sortir de la salle de bain. Il m'a ensuite empêché de remettre mes vêtements. Il m'a emmené dans sa chambre. Il m'a demandé de m'asseoir sur une chaise et il a commencé à me toucher sur tout le corps. Je me suis figé et je lui ai dit que c'était une blague, que tout ça était contraire à l'islam. Il m'a posé une arme sur la tempe, un couteau sous la gorge et m'a dit que si j'en parlais à quelqu'un, il me tuerait.
À plusieurs reprises, le Hamas a nié ces allégations.
Thibault Lefebvre, correspondant de France Info à Jérusalem. 5h22, c'est l'heure du monde d'Élodie. Avec 2 acteurs français au micro d'Élodie Suigo.
Bonjour Jean-Pascal Zadi.
Bonjour.
Bonjour Raphaël Quenard.
Bonjour.
Vous faites partie tous les deux des acteurs français qui comptent le plus dans le paysage du 7e art, avec quelques points communs flagrants, comme le franc-parler ou le parler vrai, l'humour et cette envie d'en découdre avec la vie autant que de redistribuer les cartes. Une chose est certaine, c'est que vous avez su prendre votre destin en main et accomplir vos envies et quelques-uns de vos rêves. L'un, Jean-Pascal, a conquis le public d'abord par le biais de la musique, avec le groupe La Cellule. Et puis, il y a eu Cramé, African Gangster, Sans pudeur ni morale, et puis Tout simplement Noir, ce qui vous a offert, Jean-Pascal, le César du meilleur espoir masculin. L'autre, Raphaël, s'est imposé d'abord dans des séries. On pense à HP avec le rôle d'un interne bipolaire, avant de décrocher le César de la meilleure révélation masculine avec le fameux Chien de la casse. Et dans les deux cas, on se rend compte que rien n'a été simple, et ce n'est donc pas un hasard que vous vous retrouviez à l'affiche du film Le Rêve américain, réalisé par Anthony Marciano, l'histoire vraie de Bouna et Jérémy, deux passionnés de basket hein, qui tentaient de joindre les deux bouts dans leur quartier dans les années 90. Ils rêvaient de pouvoir accompagner et recruter en fait des joueurs en NBA. Vous jouez donc le rôle de ces deux garçons et j'ai l'impression que ça raconte aussi vos vies. Comment vous avez appris cette histoire ?
On en a entendu parler déjà par Anthony Marciano qui s'intéressait parce qu'il était un peu fan de basket. Mais regardez, il voyait toujours ces deux personnages derrière les joueurs majeurs qui sont devenus des stars, dont Victor Wembanyama, dont Rudy Gobert, Evan Fournier, etc. Et il s'est rendu compte que c'était des Français qui avaient eu ce parcours incroyable, partant de rien et arrivant au sommet de leur activité. Puis c'est les meilleurs agents du monde. Et du coup, il a commencé à s'intéresser à eux, il a découvert le parcours et il a vu que c'était des gens qui étaient prêts à tout et qui abandonnaient rien. Et ils ont tenu pendant 20 ans. Le film, il s'étale sur 28 ans. Ils ont toujours gardé leur ligne. Ils ont jamais cédé à la facilité d'une séparation et c'est extraordinaire.
Ce qui ressort à travers ce film, pour tous les deux, hein, c'est, et d'ailleurs ça dépasse le film, c'est votre amitié. C'est une histoire d'amitié, cette réussite-là, elle est collective. Et en fait, on découvre votre amitié qui naît dans le film.
Souvent aux États-Unis, quand ils veulent promouvoir le rêve ou la réussite, ils disent « do it yourself, fais-le tout seul, tu vas y arriver et tout ». Et là, ce film-là, c'est tout le contraire. En fait, le film, il prouve que la réussite, en fait, c'est toujours le fruit d'un collectif. Et d'ailleurs, c'est un film d'amitié et j'en vois pas beaucoup et je trouve ça trop bien. Une amitié masculine où ils se touchent un peu. Enfin, ils se touchent.
Il y a la sororité. Bon. On se demande si justement ça existe au masculin.
Ah bah oui.
Justement, non, mais là, c'est une évidence.
Non, mais là, ce qui est super, c'est qu'ils n'hésitent pas à être tactiles. L'autre, il le masque quand il est stressé. Ce qui est vraiment super, c'est que ça, et que ça dit aussi que si tu veux y arriver, si tu veux réussir, évidemment que le moteur, il est toujours personnel. La passion, il faut que tu la trouves à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui va développer cette énergie-là. Mais ça montre qu'il faut bien choisir ton conjoint, faut bien choisir les amis que tu as autour de toi, que, en fait, tout seul, tu n'y arriveras pas, en fait.
Quand on parle de NBA, évidemment, ça fait parler les paillettes. On pense aux États-Unis, aux fakes, vraiment aux gros spectacles, quoi, aux gros shows. Et en fait, ce film, il a un visage humain. C'est ça qui est assez intéressant avec cet autre adage, le bambou qui flanche est plus fort que le chêne qui résiste. Ça veut tout simplement dire que dans un monde où on doit montrer qu'on est très très fort, qu'on n'a pas de faiblesse, de temps en temps de craquer avec les bonnes personnes, c'est important aussi.
Bah, c'est trop
et,
bien.
C'est même ce qui fait leur spécificité et ce qui fait leur attrait pour les joueurs en tant qu'agents. C'est que comme ils restent à taille humaine, ils restent aussi vulnérables et qu'ils ne sont pas comme les mastodontes impersonnels. Et eux, ils le disent, ils ont un contact spécifique avec tout le monde et ils s'investissent à un niveau qui est fou avec les joueurs.
Non, mais, et puis c'est surtout aussi que le roseau qui flanche, je pense que c'est aujourd'hui en fait. Et qu'il ne faut pas avoir peur de montrer ses failles, il ne faut pas avoir peur de craquer et que les mecs un peu à la Chuck Norris et à la Sylvester Stallone et tout, en fait, ça, on a compris que ça sert à rien, ça. Si t'as des problèmes, parle-en. Si t'es pas bien, dis-le. Et montrer, justement, qui t'es vraiment, être honnête, eh ben, c'est ça, la vraie force.
Ce que montre aussi ce film, c'est que beaucoup ne vont pas jusqu'à essayer de tenter de toucher du doigt leur rêve parce qu'ils ont peur de l'échec.
Ouais,
et l'échec. Et en même temps, l'échec...
Alors que c'est la meilleure façon d'apprendre.
C'est la clé de la réussite, effectivement. Bah
oui. Et aussi, l'échec, c'est pas que la phrase de Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. C'est j'apprends de la meilleure des façons. C'est comme une petite tempête de pluie qui s'abat sur le feu de notre passion, mais si elle meurt pas, elle va s'en trouver renforcée et décuplée. Et en fait, c'est que des façons de la renforcer et de muscler un désir profond qu'il y a en nous, de le rendre chirurgical.
Ce film, c'est plein d'espoir. C'est vraiment un moment de bonheur. On a envie de le revoir de nouveau. Et effectivement, ça galvanise. Merci beaucoup, Jean-Pascal Zadi. Merci à Raphaël Canard d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Ça s'appelle Le rêve américain et sur tous les écrans. Merci beaucoup.
Merci Élodie.
Et merci Élodie Suigo. La météo et le journal à suivre. Et Christine Peña, encore deux jours de pluie.
Oui, la perturbation pilotée par Pedro, cette tempête dont le noyau, le cœur de l'enroulement devrait passer par le nord de la Bretagne, va déverser des trombes d'eau de nouveau sur le pays. Alors ce front très pluvieux s'est déjà engagé sur la moitié nord, quasiment, avec comme dimanche, avec cet air froid qui résiste au nord de la Seine jusqu'aux frontières belges, allemandes, c'est de la neige. Il neige en ce moment sur Reims, Lens, Bar-le-Duc, Chaumont, un peu sur la Normandie entre Rouen, Beauvais, Forges-les-Eaux, mais rapidement la pluie va prendre le relais. Vers Pontoise, c'est de la pluie. Sur l'Île-de-France également, de la pluie. Ces pluies qui deviennent conséquentes vers le Finistère et le Morbihan. Il faut s'attendre à avoir encore 50 mm de cumul d'ici ce soir, ce qui n'arrangera pas évidemment les crues. Vous l'imaginez, entre les Charentes et l'ouest du Limousin, il pleut, mais les averses sont un peu moins intenses qu'en Bretagne. Au sud de la Garonne, c'est plus sec. D'ailleurs, le soleil devrait l'emporter aujourd'hui sur l'Occitanie, autour de la Méditerranée, jusqu'en Corse. Corse. Et dans l'après-midi, les pluies vont se renforcer malheureusement à l'ouest, hein, envahir le pays peu à peu durant la soirée et la nuit prochaine. Et ce vent également va fortement se renforcer, des rafales qui pourraient s'approcher des 100 km/h vers les côtes atlantiques.
Et un petit mot pour jeudi, Christine ?
Ah ben, alors là, pour jeudi, les pluies seront de nouveau en place, hein, des averses très nombreuses sur l'ouest, le sud-ouest, un temps de giboulée avec du vent, une tramontane très violente d'ailleurs dans le sud, entre le Midi-Pyrénées et les PO, les Pyrénées-Orientales, les régions méditerranéennes resteront à l'abri. Et puis, alors la bonne nouvelle, c'est que le temps redeviendra plus sec à partir de vendredi. Entre vendredi et mardi prochain, le temps devrait rester sec, ce qui permettra la décrue de s'amorcer dès le week-end prochain. Ça, c'est pour finir avec une bonne nouvelle. Non, quand même.
Enfin, la calmie. Merci. Exactement. Christine Peña. D'ici 6 heures, on revient sur les crues dans le sud-ouest. La pluie arrive, donc on le disait, avec la crainte de nouveaux débordements. Nous serons aux côtés des pompiers en Gironde. Et puis, nous ferons le point sur l'enquête autour du décès de Quentin Derenck, le militant identitaire frappé à mort jeudi dernier. 9 personnes sont en garde à vue. En attendant, soyez les bienvenus sur France Info. Merci d'être avec nous dans le 5-6. Bon réveil, il est 5h30.
France Info. Jeanne Mézières.
Du jamais vu en Charente-Maritime, le département est en vigilance rouge pour crues depuis hier, comme 3 autres départements. Les inondations sont exceptionnelles avec des maisons qui se retrouvent isolées, des routes coupées. Ajoutez à cela de nouvelles pluies qui arrivent. L'alerte est maximale, rappelle Brice Blondel, le préfet de la Charente-Maritime.
L'eau devrait atteindre 6,40 m à Sainte. Ce sont des niveaux effectivement historiques, digne des crues de 82 ou 94, avec surtout des impacts extrêmement sensibles sur la vie des gens. Il y a une 50aine de personnes et de foyers qui ont été évacués des rues inondées à Sainte. Potentiellement 350 à 700 maisons qui devraient être inondées, évidemment bien plus qui sont impactées. Donc voilà, c'est sensible pour les gens à Sainte, c'est sensible pour les gens dans les communes alentours. Le village de Courcoury aujourd'hui est une île, on y accède en bateau ou en tracteur. Et puis il y a d'autres points d'alerte. Effectivement, on passe en vigilance rouge sur la Charente, mais il y a une forte possibilité qu'on passe en vigilance rouge sur la Sèvre-Niortaise au nord du département, à Maran en particulier, où on aura à la fois des crues, du vent, de la pluie et des phénomènes de submersion marine avec les forts coefficients de marée qui là aussi vont impacter de manière très sensible nos concitoyens.
Et d'autres départements sont en vigilance rouge, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire. 20 000 foyers sont toujours privés d'électricité depuis le passage de la tempête Niels il y a une semaine. Les conditions de travail des agents d'Enedis sont très difficiles, explique le gestionnaire. 9 personnes sont en garde à vue depuis hier soir dans l'enquête autour de la mort du militant identitaire Quentin Derenck à Lyon. Parmi elles, 6 personnes sont soupçonnés d'avoir participé au passage à tabac de l'étudiant de 23 ans jeudi soir dernier, en marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. L'enquête pour homicide involontaire et violences aggravées se poursuit. Emmanuel Macron poursuit sa visite en Inde avec l'annonce hier d'une coopération renforcée entre Paris et New Delhi sur plusieurs thèmes comme la défense et l'intelligence artificielle. Un partenariat qui doit faire face à la mutation de l'ordre international, explique Emmanuel Macron en référence à la politique commerciale des États-Unis face à la montée en puissance de la Chine. L'équipe de France de biathlon écrit l'histoire avec 9 médailles déjà remportées dans la discipline au JO de Milan-Cortina. Et pour la première fois, hier après-midi, un titre olympique sur le relais masculin. Aujourd'hui, les femmes vont aussi tenter de grimper sur le podium et de décrocher l'or. Fanny Lechevestrier à Anterselva, l'engouement des supporters est sans limite.
C'est la folie, merci les Bleus. Trop d'émotions, on est venus là pour ça. Merci beaucoup les gars.
Quelque chose.
Allemand, Norvégien, Français, Suédois, depuis hier soir, il règne à Anterselva une ambiance encore jamais vue. Tous ont l'impression de vivre un moment unique où les larmes d'émotion, celles de l'entraîneur Simon Fourcade.
Il y a 3 ans en arrière, quand je reprends l'équipe, pardon. Et voilà, il manquait ça. C'est grand, c'est encore plus grand.
Se mêlent à l'euphorie des supporters français.
Ouais, franchement. J'ai failli lâcher une petite larme là à la fin, donc en plus on vient de battre le record de médailles. Ah, c'est magique.
Et au final, Emilien Jacquelin, extraordinaire.
Merci Emilien, Emilien, t'es meilleur.
Au milieu de la foule, les familles des biathlètes, d'Emilien, de Quentin et d'Éric Savour.
Ouais, c'est magnifique, les émotions, c'est indescriptible.
C'est de la magie faite par des magiciens.
C'est fabuleux, quoi. On a du mal à se rendre compte de l'exploit que c'est.
On est vraiment
sur un nuage.
Maintenant, le pays de biathlon, c'est aussi la France. On y est.
Et oui, une nouvelle démonstration est attendue aujourd'hui avec les Françaises et peut-être la 10e médaille tricolore pour le biathlon.
On viendra, on en aura d'autres.
La 5e en or.
Et oui, départ à 14h45 pour le relais femmes, ce sera à suivre sur France Info. 5h34.
France Info. 5h, 6h. Jeanne Mézia.
Il y a toujours du rouge sur la carte des vigilances de Météo France. Alerte maximale pour crue en Charente-Maritime, dans le Maine-et-Loire, le Lot et Garonne et la Gironde. Près d'une semaine après le passage de la tempête Niels, des plateaux ont été atteints, mais de nouveaux débordements de la Garonne sont craints et les évacuations se poursuivent. Par endroits, Jules Brelaz, c'est le cas à Borèche, au sud de Bordeaux.
Le 4x4 des pompiers s'arrête à l'entrée du village de Borèche.
Il y a une maison qui est entourée d'eau avec les voitures. On peut apercevoir que la voiture est quasiment sous l'eau. On va à cet endroit-là.
Le canot pneumatique est descendu de la remorque.
Attention, tu te remettes au milieu, il y a un fossé de chaque côté.
Les hommes du lieutenant-colonel Éric Pitot vont secourir deux octogénaires.
Ils sont encerclés par les eaux, ils ont un peu d'eau dans la maison. Et nous, on a engagé une embarcation avec quatre sauveteurs pour aller les chercher.
Des interventions de mise à l'abri comme celle-ci, il y en a un peu partout, dit le sergent Alban.
Ça, c'est les autres collègues qui sont à Sainte-Croix.
Quelques instants plus tard, le canot est de retour.
Je vais prendre vos affaires, madame.
Françoise pose le pied à terre avec Bonnie, son petit chien qu'elle porte dans un sac.
Ça va ? J'arrive plus. Je sais pas, l'eau est arrivée d'un coup. Puis hier soir, elle est rentrée dans la maison. Ouais. Chambre, ça a mangé côté Garonne, il y a au moins 10 cm d'eau. Tout d'un coup, on s'est levé le matin, et puis, oh, mon Dieu.
En combinaison de plongée, l'adjutant-chef Franck aide la retraitée à marcher.
Depuis jeudi, c'est le quotidien de mettre des gens à l'abri en sécurité. Oui. Bon, ils sont contents de nous voir, forcément. Je pense que ça va encore monter, il y a un risque encore jeudi avec des gros coefs et de la pluie. Quoi.
Françoise tombe dans les bras de son frère.
Voilà, on va la récupérer.
Son conjoint, lui, est resté dans la maison.
Il voulait pas sortir, alors il m'a dit on reste là, qu'est-ce que ça change, on va se débrouiller. Mais c'est pas possible. Il était tu comme une mule. Dieu sait si on l'a appelé.
Bon. Le maire de Borèche tente de rassurer.
Ah, il veut pas sortir de la maison.
Mais je sais, mais on va aller chercher.
Pascal Maudet compte une trentaine d'habitants inondés.
On a deux maraîchers qui sont sous l'eau, qui ont perdu leur récolte. Il y a un château en bordure de Garonne aussi. Là, les personnes sont restées sur place, mais ils ont des canoës, ils se sont équipés en groupe électrogène. Ils préfèrent rester sur place pour essayer de sauver ce qu'ils peuvent sauver si ça monte plus haut dans la propriété.
C'est justement ce que redoutent les anciens.
Bon, disons qu'on connaît un peu la rivière, on connaît la Garonne.
Éric était pêcheur professionnel sur la Garonne.
Ça va refaire encore un coup de tampon avec les gros coefs, ça risque de déborder beaucoup plus. Ouais.
Une conjonction des fortes marées, de nouvelles précipitations et de coups de vent qui pourraient provoquer une nouvelle montée des eaux.
Entre 50 et 1 mètre, si c'est pas plus. Ça annonce pas de bonnes choses. Quoi.
Reportage de Jules Brelaz, ici Gironde, pour France Info. Dans le département voisin, le Lot et Garonne, les dégâts se voient sur les routes, certaines sont fermées. L'électricité n'est pas revenue partout et le réseau de téléphone reste perturbé. À Marmande, heureusement, la solidarité domine, comme en témoigne cette entreprise d'événementiel qui met en location des frigos et des congélateurs et propose aux habitants de venir déposer leur nourriture gratuitement, Faouzi Trita.
Au départ, c'est Elsa, la co-gérante, et les autres employés qui ont rapidement eu besoin des congélateurs et frigos de l'entreprise.
On a emmené nos provisions ici pour mettre tout ce que j'avais chez moi vu que j'avais plus d'électricité. Et donc forcément, on s'est dit, pourquoi pas le proposer aussi aux gens. Justement, nous, on a été dans la même galère, donc on sait ce que ça fait.
Elle a publié un message sur Facebook et a ensuite assisté à un défilé de surgelés.
Là, les congélateurs, et là-bas, vous avez les frigos. Ils mettent tout dans les panières à linge souvent, et après, ils le mettent... Le mettre directement dans nos congélateurs ou nos frigos. Tout le monde galère pour remplir le frigo, je pense, à la fin du mois. Donc, on sait que la nourriture, ça coûte cher à l'heure d'aujourd'hui, donc tout perdre, ça peut coûter très cher. Après, malheureusement, on ne peut pas venir en aide non plus à tout le monde, parce qu'il y en a qui sont bloqués, donc ils peuvent pas non plus nous emmener, eux, ce qu'ils ont dans leur frigo et leur congélateur, mais au moins déjà aider une petite partie de Marmande et des alentours.
Amandine, mère de deux enfants, a vu la publication. Elle ne s'est pas posée de questions lorsque l'électricité a été coupée chez elle.
On a pris les bacs du congélateur et on a tout emmené ici afin de ne rien perdre.
Et il aurait été très dommage de tout perdre. Elle venait d'acheter un cochon entier chez le boucher, comme le veut la tradition, une fois par an en Lot-et-Garonne.
60 kilos de cochon. Et du coup, perdre tout ça dans un budget familial, c'est compliqué.
Les prévisions restent mauvaises. Les morceaux de cochon vont donc rester sur place pour l'instant.
On n'est pas à l'abri que l'électricité soit coupée de nouveau. On nous a déjà informés via des messages, via les mairies. Donc j'ai pas envie de tout remettre maintenant, on n'est plus à 48 heures près. On va s'éviter du stress en plus, donc on va laisser là et on va attendre que la deuxième tempête passe avant de tout ramener.
Dans tous les cas, Elsa, la co-gérante, le rappelle, les portes des frigos et des congélateurs resteront ouvertes tant que les intempéries ne seront pas terminées.
Le reportage à Marmande de Faouzi Trita pour France Info. 9 personnes interpellées hier et placées en garde à vue dans l'enquête sur la mort de Quentin Derenck, frappé dans une rue lyonnaise jeudi soir dernier en marge d'une conférence de l'eurodéputé LFI Rima Hassan. Bonjour Pierre de Cossette.
Bonjour.
5 jours après les faits, l'enquête avance. Ces interpellations ont eu lieu partout en France, jusque dans le Nord.
Oui, de la Drôme à la Picardie, en passant par la Haute-Loire, en quelques heures, les enquêteurs ont arrêté 6 principaux suspects et 3 personnes qui les accompagnaient, notamment la petite amie et la belle-mère de l'un d'eux. Et c'est dans le département de la Vienne, à Sessuel, à une 20aine de kilomètres au sud de Lyon, que la police a donc interpellé Jacques-Élie Favreau, attaché parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud, un suspect considéré comme membre fondateur du groupe antifasciste La Jeune Garde. Sa présence sur les lieux jeudi dernier ne fait pas de doute pour les enquêteurs et, dans l'ensemble, les cagoules, les masques portés par les auteurs de coups sur Quentin Derenck n'ont pas empêché les policiers d'identifier les suspects, dont plusieurs sont présentés eux aussi comme proches de La Jeune Garde.
Les gardes à vue ont donc commencé. Pierre, est-ce qu'on connaît les rôles de chacun ?
Alors, ce que disent nos sources, c'est que ces 6 hommes arrêtés hier sont tous soupçonnés d'avoir frappé le militant nationaliste Quentin Derenck et un de ses camarades. Difficile d'en savoir plus parce qu'il y a les gardes à vue qui ont commencé et qu'il s'agit justement d'interroger les suspects, de savoir ce qu'ils ont à dire face aux éléments qui leur seront présentés, les vidéos, les témoignages. Avec la probabilité, nous glissait un policier hier soir, de trouver des clients peu bavards. La culture de l'ultra-gauche, nous disait cette source, c'est plutôt le silence.
Explication signée Pierre de Cossette, service police-justice de France Info. Cette affaire a des répercussions sur le monde politique. Vous le disiez, Pierre, l'un des individus en garde à vue est Jacques-Élie Favreau, assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud. LFI qui tente de prendre ses distances. L'élu vauclusien dit avoir engagé une procédure pour mettre fin au contrat de ce collaborateur. Déclaration également de Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis, affirme qu'on se déshonore lorsqu'on frappe d'une manière qui comporte le risque d'infliger la mort. Le sujet s'est aussi invité hier à l'Assemblée nationale avec une minute de silence en hommage à la victime et toute une série de questions au gouvernement. La France insoumise a particulièrement été visée. Le Premier ministre demande au parti de faire le ménage dans ses rangs. Un climat tendu mais pas inhabituel dans l'hémicycle pour Christophe Boutin, politologue et professeur de droit public à l'Université de Caen.
Ça fait aussi quelques années qu'il y a une tension très importante à l'Assemblée nationale avec des noms d'oiseaux qui volent, avec des interruptions, avec de la part notamment de la France insoumise, il faut le dire, un certain nombre de troubles dans le fonctionnement que la présidente de l'Assemblée nationale relève à chaque fois avec un certain désappointement.
Christophe Boutin, est-ce que c'est politiquement, je vais employer le terme d'embarrassant, mais peut-être un peu plus que ça pour la France insoumise avec aussi le patron du Parti Socialiste qui juge que LFI, je le cite, ne peut conserver la moindre ambiguïté avec tout mouvement violent. Est-ce que c'est de nature à fissurer définitivement ce qui restait peut-être du nouveau Front Populaire ?
Je pense que c'est un élément effectivement qui peut jouer. C'est un élément qui avait d'ailleurs joué au moment des élections avec l'investiture qui avait été donnée à Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud avait été investi dans le milieu de la France, à Avignon, et à ce moment-là, on s'était inquiété au sein du nouveau Front Populaire, et notamment au Parti Socialiste, on s'était inquiété de cette investiture qui était donnée à quelqu'un qui avait été condamné pour des faits de violence, finalement assez proche de ceux qui ont conduit à la mort d'un militant.
Comment jugez-vous le climat politique actuel, Christophe Boutin ?
Comme tout le monde, je ne le juge pas très bon et je ne vois pas qui pourrait juger le climat politique très bon. Qu'il y ait des confrontations d'idées, c'est tout à fait souhaitable dans un milieu parlementaire. Qu'il y ait des blocages, qu'il y ait cette violence que rappelait le Premier ministre et que rappelle aussi le Premier secrétaire du Parti Socialiste, vous le disiez très justement, c'est bien inutile pour le fonctionnement d'une démocratie, un moment où la France pense à autre chose à faire.
Est-ce que, comme le dit le Premier ministre Sébastien Lecornu, la France insoumise doit faire le ménage dans ses rangs? C'est ce qu'il a dit lors de cette séance de questions au gouvernement particulièrement tendue.
Oui, il a dit le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées, le ménage dans vos rangs. Et les trois éléments sont importants. Dans vos propos, c'est la manière de vous tenir à la chambre et d'être moins violent. Dans vos idées, c'est savoir que les propos que vous propagez sont des propos qui peuvent être mal compris et conduire à des violences. Et enfin, dans vos rangs, ça pose effectivement la question des investitures qui peuvent être accordées.
Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, lui, accuse le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, je le cite, d'avoir ouvert les portes de l'Assemblée à des meurtriers présumés et d'avoir une responsabilité morale et politique immense dans le drame. Est-ce que le Rassemblement national ne profite pas, entre guillemets, politiquement de ce qui se passe?
Des meurtriers présumés, le terme est bien évidemment tout à fait excessif, on ne peut que le relever. Par contre, avoir ouvert les portes de l'Assemblée nationale à des gens qui étaient déjà condamnés pour des faits de violence et qui nul ne pouvait ignorer cette condamnation, oui, c'est une réalité. Effectivement, par ailleurs, qu'un parti utilise parfois de manière assez triste des événements de ce type-là, on ne peut que le regretter par ailleurs.
Est-ce que ça augure d'un climat politique particulièrement détérioré dans le pays, à l'orée des municipales, mais peut-être faut-il le redouter jusqu'à la prochaine présidentielle?
Oui, la radicalisation qu'on constate chez la jeunesse dans le pays est une réalité. La montée des violences est une réalité, une sorte de déshumanisation d'adversaires, c'est aussi une réalité. Et effectivement, il n'est pas évident du tout que cela se calme avant la prochaine présidentielle.
Christophe Boutin, politologue et professeur de droit public à l'Université de Caen, avec Julien Langlais, à suivre l'essentiel de l'info.
France Info, 5h-6h.
L'info en une minute, Maureen Suignard, à 5h45. À la une ce matin, une partie de la France sous les eaux.
Quatre départements sont en vigilance rouge face aux crues, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime. Ce dernier département où des crues historiques sont attendues selon le préfet. 10 autres départements sont en vigilance orange du Finistère au Tarn-et-Garonne. La France insoumise n'accepte pas les leçons du Premier ministre, dit Jean-Luc Mélenchon, le patron de LFI. Sébastien Lecornu a demandé hier au parti de faire le ménage dans ses rangs après la mort du militant nationaliste Quentin Derenc à Lyon. 9 personnes ont été interpellées hier, dont l'assistant parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud. L'Assemblée nationale qui continuait d'examiner en deuxième lecture hier le texte sur les soins palliatifs. Les députés ont rejeté la création d'un droit opposable à disposer de ces soins en France. Et puis c'est le début du mois de jeûne du Ramadan, aujourd'hui pour les musulmans. Chose très rare, il débute à la même date que le carême pour les chrétiens.
France Info.
L'affaire de la mort de Quentin Derenc et ses conséquences, avec le témoignage ce matin du père d'une jeune femme, Blandine B, est membre de la Jeune Garde, le collectif mis en cause dans le lynchage du militant identitaire. Le nom de cette jeune femme, sa photo, des informations sur sa vie ont été diffusées par des influenceurs d'extrême droite qui la désignaient comme l'une des responsables du décès du jeune homme. Mais elle n'était pas à Lyon au moment des faits, Simon Le Baron. Son père dénonce le harcèlement et les menaces subies par la famille depuis 2 jours.
Il dit que les volets de la maison sont restés fermés toute la journée, la voix fatiguée après une nuit sans sommeil.
Le téléphone a pas cessé de sonner et on a décroché au début pour se faire insulter.
Et puis c'est une avalanche de messages menaçants.
Tu flippes, tu fais bien. Et en dessous, mon adresse écrite de façon précise. Tic-tac, tic-tac, il n'y en a plus pour longtemps pour Blandine, où il y a ma photo et la photo de ma femme, et est écrit « Je suis le chasseur, t'es la proie ».
Les noms, les photos de ses deux autres filles sont aussi diffusés. Presque tous les membres de sa famille livrés à la vindicte.
Je suis pas serein, non. Je suis pas serein et je vais prendre des précautions pendant plusieurs semaines. Moi, et on se demande est-ce qu'on doit déménager, changer tous nos numéros, je sais pas.
Sauf que Blandine, partie en Erasmus, dit-il, ne peut pas avoir participé.
Elle est partie mercredi après-midi en Amérique du Sud et elle est arrivée dans la nuit entre mercredi et jeudi.
Comme preuve, une vidéo montrant un tampon daté de jeudi sur le passeport de sa fille, un billet d'avion usagé, une photo géolocalisée. Quand nous le rencontrons, des suspects viennent d'être interpellés.
C'est pas un soulagement, mais moi je veux juste que l'affaire soit réglée le plus vite possible. Il y a un truc atroce qui a été fait. J'espère qu'une justice un peu professionnelle et apaisée va faire son taf, quoi. C'est tout.
Lui acceptait l'appartenance de sa fille à la mouvance Antifa, mais il espère que ce drame sera un électrochoc.
Mais j'aimerais que ce soit une d'elle, surtout. Qu'elle en sorte.
En attendant, l'angoisse de ce père, c'est de penser au jour où sa fille devra rentrer à Lyon.
Simon Le Baron. 5h48, le choix de France Info consacré ce matin aux aidants en France. C'est 11 millions de personnes qui consacrent leur vie à leurs proches. Certains sont épuisés. Alors pour leur apporter un peu de répit, une expérimentation est menée dans plusieurs départements, comme dans cet établissement médico-social d'Eure-et-Loir, où un accueil de nuit temporaire est proposé aux aidants. Immersion avec vous, Valentin Dunat.
Avant de rentrer dans cette maison de retraite, il faut prendre le temps de comprendre pourquoi certains aidants ont tant besoin de confier leurs proches une nuit ou deux de temps en temps. C'est le cas de Jean-François, 73 ans. Sa femme, Françoise, est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 8 ans. Une maladie dont il peine à dire le nom et ses conséquences.
Ah ben alors, Alzheimer, c'est un peu compliqué. En fait, ça se détériore au fil du temps. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est très, très agressive. Il faut être à 100% avec elle, parce que sinon, elle fait des choses. Donc, elle déplace des meubles. C'est quelque chose qui est absolument permanent. Puis, le soir, c'est pareil. Elle ne veut pas se coucher, elle ne veut pas aller aux toilettes. Bon. Elle s'accroche à ses vêtements pour pas qu'on les enlève. Et puis, elle se met à hurler. Donc, tous les soirs, c'est ça. Et donc, il faut un peu de répit. Ça devient vital, en fait.
Jean-François va profiter de ces quelques heures pour s'adonner à sa passion, la peinture. Sa femme, elle, est donc prise en charge dans l'unité Alzheimer de l'EHPAD, dirigée par Dorothée Muot.
Je vais vous montrer la dame qui est en accueil de nuit. Voilà, c'est Françoise.
Bonjour.
Ça va, Françoise?
Ah ben oui, c'est contraste, ouais, avec mon père.
Donc elle va passer la nuit avec nous et puis son mari viendra la chercher demain matin.
Depuis la rentrée, ce dispositif d'accueil de nuit est de plus en plus plébiscité. Il est souvent suivi ou précédé par un accueil de jour. La plupart du temps, tout est planifié à l'avance, mais il y a aussi des situations d'urgence.
On a eu la situation il y a quelques jours là d'une dame qui m'a appelée et qui est venue directement dans mon bureau en pleurant. Elle en pouvait plus. Ce monsieur se levait et puis parce que dans le lit il pensait pas que c'était sa femme parce qu'il se souvient de son ex-femme, donc sa nouvelle femme c'était une étrangère pour lui. Donc il était agité toute la nuit parce qu'il y avait une femme à côté de lui qui n'était pas sa femme en fait. Donc ça a duré une nuit, deux nuits et puis madame est arrivée en pleurant, épuisée, en disant j'en peux plus.
Ces personnes âgées se retrouvent donc dans la partie commune avec les autres résidents.
Ah bah si.
C'est l'heure du dîner que je prends à la table de Françoise. Il y a aussi Patrick, 75 ans, et son épouse, Marie-France, 76. Elle est ici depuis 5 ans. Avant et pendant 10 longues années, c'est lui qui prenait soin d'elle. Cet accueil de nuit qui n'existait pas à l'époque.
Ah, j'aurais adoré dormir, ça a été... Je l'ai laissé au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, je l'ai laissé une fois 3 semaines dans un EHPAD. Et là, j'ai fait le constat que j'étais littéralement épuisé. J'ai dormi pendant 8-10 jours. On ne pouvait plus faire que ça. Quand on est épuisé, on ne s'en rend même plus compte. Donc oui, s'il y avait eu un service de nuit à l'époque, ça m'aurait permis de dormir quelques nuits. Ça m'aurait aidé peut-être à mieux m'occuper d'elle à la maison. Oui, c'est sûr.
Non, pas mon from.
Parce que je m'endettais.
Alors, je vais me dépêcher. J'arrête de poser des questions à monsieur et je mange mon fromage. Sinon, vous allez me le piquer, Françoise.
Oui.
Non.
Ça.
Françoise.
Oui.
Ça se fait pas.
Élodie Victorin, que vous venez d'entendre, est aide-soignante. C'est elle qui va coucher et changer Françoise.
Françoise.
Son mari nous a donné la permission de diffuser ce moment intime pour, dit-il, que l'on comprenne son quotidien.
Hé, ça va?
Oui, un peu.
C'est déjà pas mal. Françoise, oui. On va mettre la chemise de nuit, d'accord?
Non, T'es fatiguée?
Oui.
Est-ce qu'on s'allonge? Tu le cœur, toi.
Voilà. T'es bien, là?
T'inquiète, toi. Tu me donnes le pied?
Tu connais que la conne.
Ah, oh, t'es fâchée. Ça, c'était bien. Hein. Françoise, tu vas te mettre debout. C'est pas grave.
Excuse-moi.
Il n'y a pas de mal.
Oh.
Bisous. On est copines, c'est bon. On te souhaite une bonne nuit?
Oh, bah oui.
À demain.
Elle vous a agrippé les cheveux?
Ouais, c'est le déshabillage qui est compliqué. Elle se sent agressée, elle comprend pas hein, pourquoi on veut la déshabiller. Mais bon, vous voyez, après tout de suite, je te fais un bisou, je m'excuse. Hein, elle est pas méchante du tout. Après, on le sait, c'est le jeu.
Pour son mari, c'est tous les soirs comme ça, quoi.
Oui, je pense que oui, elle doit être comme ça au quotidien. Et des fois, même avec leurs proches, ils sont encore plus durs.
Alors pour l'instant, ce dispositif d'accueil de nuit est expérimenté dans 6 régions jusqu'au 1er juin. Marie-Cécile Fournier est la directrice de cet établissement qui s'appelle la Fondation d'Aligre Marie-Thérèse.
Nous, on travaille, on s'occupe des personnes sur notre temps de travail. On rentre chez nous, on a des sas de décompression. Un aidant, il n'a pas ça. On a déjà vu des aidants partir avant l'aider.
C'est donc le message que ces professionnels tentent de délivrer délicatement aux aidants, comme Jean-François, qui retrouve sa femme à 10h du matin.
Bon, vous avez passé une bonne nuit ?
Oui. Coucou, vous avez l'air souriante.
Ah oui, vous êtes contente de voir votre mari ?
Oui, oui.
Bah oui.
Au revoir, François. Au revoir. À la semaine prochaine.
Je dois vous dire bon courage, je dois vous dire bonne route, je dois vous dire quoi ?
Bah oui, c'est ça, bon courage, c'est bien, parce que bon... On espère toujours que ça va s'arranger, tout en sachant que de toute façon, ça ne va pas s'arranger, ça c'est clair.
Selon l'association France Alzheimer, 1 400 000 personnes sont atteintes de cette maladie ou de troubles apparentés en France. Les deux tiers sont des femmes. Ce chiffre devrait doubler dans les 25 prochaines années.
Le choix de France Info, signé Valentin Dunat, retrouvé sur franceinfo.fr. À suivre dans la playlist de France Info, le spectacle musical de Sting, que le chanteur britannique vient présenter en France. Ce sera juste après l'actualité de l'économie.
Le réveil de l'écho, avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Bonjour Emmanuel Cuny.
Bonjour à tous.
Toute l'actualité économique en 3 titres. Le surendettement est en forte hausse chez les jeunes.
Oui, le nombre de dossiers déposés à la Banque de France par les moins de 30 ans est passé de 12 500 en 2024 à 17 000 l'an dernier. C'est une augmentation de 36% sur un an. Selon les services de la Banque centrale, les jeunes sont de plus en plus concernés par le surendettement, notamment à cause des mini-crédits et des paiements fractionnés. Pour les moins de 30 ans, les femmes et les chômeurs sont davantage représentés.
La tempête Niels qui a traversé la moitié sud de la France la semaine dernière pourrait coûter 1 milliard d'euros aux assureurs.
Oui, c'est en tout cas une première estimation dévoilée par la Caisse centrale de réassurance. Le nombre de sinistres liés à la tempête Niels est estimé à 250 000. La présidente de France Assureurs, Florence Lussmann, annonce le lancement d'une mission de reconnaissance pour accélérer les indemnisations dans les zones touchées par les crues et les plus difficilement accessibles. Plus d'une dizaine de départements de l'Ouest connaissent des crues exceptionnel.
Et le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, devant la justice aujourd'hui aux États-Unis.
Oui, Mark Zuckerberg doit témoigner à Los Angeles au procès inédit de l'addiction aux réseaux sociaux. Le patron de Meta, maison mère de Facebook, mais aussi d'Instagram et WhatsApp, va devoir répondre aux avocats d'une plaignante qui accuse Instagram et d'autres plateformes d'avoir été conçues pour rendre les jeunes dépendants. C'est la première fois que le patron de Meta s'exprimera devant un jury sous serment.
Merci Emmanuel Cuny. On vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
Le fabricant de fournitures scolaires Maped s'apprête à fermer sa dernière usine de production en France. Maped, connu notamment pour ses gommes et ses compas, le site d'Ardonnay en Haute-Savoie doit cesser sa production en mai prochain. Il lui est impossible de lutter dans le contexte économique actuel.
5h56, c'est l'heure de la playlist de France Info. Maureen Suignard, vous nous emmenez en Angleterre.
Direction la petite ville côtière de Wallsend au nord-est du pays.
It's all there in the Gospels, a Magdalene girl.
Ce n'est pas moi qui vous embarque, mais le chanteur britannique Sting, l'ancienne star de The Police, qui sera à partir d'aujourd'hui à la scène musicale à Boulogne, près de Paris. Il présente pour la première fois en France The Last Ship, son spectacle musical qu'il a écrit et composé.
Through the teeth of this tempest, in the mouth of a gale, may the angels protect me if all else should
fail. Dans ce spectacle, Sting rend hommage à ses parents, ses grands-parents, il met ses racines à l'honneur. Sting, Gordon Sumner de son vrai nom, a grandi dans cette ville située non loin de Newcastle qui abrite depuis des décennies des chantiers navals. Une ville très marquée par la privatisation de ses chantiers par le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher à la fin des années 80.
This town, the stain on the sunrise. Disguised in the mist this morning.
Sting raconte que son spectacle décrit la dignité que l'on peut trouver dans le travail. C'est l'histoire d'une communauté, on est dans la vie quotidienne des ouvriers. Sting joue l'un des rôles principaux en bleu travail dans un décor sombre qui nous plonge dans la cale d'un bateau. The Lash Sip. C'est aussi l'histoire d'un acharnement parce que le show n'avait pas marché à son lancement à Broadway aux États-Unis en 2014, mais Sting s'est accroché, l'a réécrit, l'a amélioré. La star raconte à nos confrères du Figaro ressentir une dette envers le chantier naval alors qu'il a tout fait pour y échapper. Et Jeanne, Sting ne sera pas la seule star sur scène. Shaggy fait aussi partie de l'aventure, assez surprenant quand on sait qu'il est plutôt connu pour ça. Bon, le chanteur jamaïcain ne sera pas dans ce registre, on sera plutôt dans l'ambiance brume anglaise, accent à couper au couteau. Les deux chanteurs devraient être à l'aise ensemble sur scène puisque Sting et Shaggy ne sont pas des inconnus, ils ont déjà partagé un album ensemble en 2018.
La playlist de France Info signée Maureen Suignard, la météo à suivre. Et Christine Peña, pas d'amélioration dans le ciel avant vendredi.
Mais oui, avant vendredi. Alors vendredi, nous aurons effectivement une belle amélioration et pour plusieurs jours, au moins jusqu'à mardi, ce qui permettra la décrue dès le week-end prochain. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. En attendant, nous avons cette tempête Pedro qui va nous concerner dès aujourd'hui. Nous avons un front très pluvieux qui s'est déjà engagé sur quasiment la moitié nord avec, comme dimanche, on a cet air froid là, il fait 0 à Reims, moins 1 à Nancy, moins 1 à Metz, moins 1 également à Strasbourg. Alors il neige effectivement du côté de Reims, de Lens, de Bar-le-Duc. On a zéro également du côté de Lille. À Chaumont aussi, un peu en Normandie, entre Rouen, Beauvais, Forges-les-Eaux. Mais c'est rapidement la pluie qui va prendre le relais. Sur Paris, il pleut. Et entre les Charentes, l'ouest du Limousin, il pleut. Mais les averses sont un peu moins intenses qu'en Bretagne. En ce moment, il pleut fortement. Et nous avons ces pluies qui vont se renforcer. Donc cette tempête nous concernera entre aujourd'hui et demain avec des vents évidemment violents et des températures un petit peu plus douces vers la façade atlantique. On a déjà 12 degrés par exemple sur l'île de Ré ou encore du côté de Biscarrosse.